Cet épisode a une durée similaire à un meeting Zoom en vélo. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie.
Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu.
Notre mission, vous accompagner à vous mettre ou vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on reçoit un orthopédiste et on veut démystifier les mythes vis-à-vis la santé et la course à pied. Bill, veux-tu nous présenter notre invité aujourd'hui?
Bien sûr, on reçoit Étienne Leclerc. Puis je suis content, c'est un trifluvien d'origine. On a parlé souvent de moi, j'étais à Trois-Rivières, puis fait que du talent de chez nous qui a été développé. Étienne est chirurgien orthopédiste spécialisé en traumato et en médecine du sport. Il a fini sa formation, sa spécialité en orthopédie en 2011, s'est spécialisé en orthopédie sportive par la suite et pratique depuis 2012. Présentement, il est à l'hôpital Brown-Missisquoi-Perkins à Cowansville. Un adepte et un très bon triathlète, on y reviendra. Et puis, j'ai relaté là, quelques petits faits d'armes. Là. On voit un demi-marathon à Ottawa dès 2009 avec un excellent temps. Deuxième au triathlon épique en Estrie l'année passée. Très, très fort temps, le triathlon qui était l'équivalent d'un demi-Ironman. On y reviendra ça aussi. Alors oui, aujourd'hui, on va jaser avec lui de tout ce qui est les mythes qui entourent la course à pied, mais par rapport vraiment à sa spécialité, à l'orthopédie, où déjà on a parlé avec chiro, des kines. Là, on vient chercher un autre volet de la santé du sport. Puis pour commencer, Coach Frank, moi je veux savoir, est-ce que tu as couru cette semaine?
Bien, la question la plus importante, effectivement que j'ai couru et même le jour de l'enregistrement, c'est le retour de mon party de Noël et ce matin, j'ai réveillé deux de mes chums plus tôt malgré la soirée longue et un petit peu arrosée et on est allé courir dans la magnifique région des Laurentides. C'était de toute beauté. Et toi, Bill, as-tu couru cette semaine?
Oui, j'ai couru puis ça a été ma première course dans la neige. La saison commence un petit peu hivernale où on commence à courir dans la neige. J'ai boqué, j'ai mis mes souliers d'été quand même. Évidemment, mais il y avait de l'asphalte. Là. C'était pas si pire que ça. Mais j'ai eu deux, trois petites frousses. Là. J'ai mis le pied sur de la glace à des places. Je suis resté sur mes deux pattes, là, mais ça commençait à être limite. Fait que première course de neige, check. Toi, Étienne, on veut savoir, est-ce que tu as couru cette semaine?
Oui, j'ai couru cette semaine. À vrai dire, ça a été une bonne semaine de ce côté-là. Un peu comme toi, la météo hivernale m'a forcé à réaligner certains de mes sports. Donc, j'ai dû ranger le vélo extérieur par peur de glisser et de me casser quelque chose. Et j'ai troqué ça par les souliers de course qui ont sorti un peu plus cette semaine. Donc, oui, j'ai couru et profité de la belle météo hivernale qu'on a eue.
C'était le fun, le côté crisp. Je vais finir ça, mais cette semaine, il y avait un petit côté là, frais là, qui était vraiment agréable de courir cette semaine.
Tout à fait. Puis le soleil qui s'est repointé le bout du nez à quelques reprises aussi, là, avec les reflets sur la neige, la glace, c'était assez féerique comme décor.
Moi, je vais y aller avec la première question parce que c'est celle que j'ai demandé à Bill. Elle n'était pas dans le programme. Pour te donner une idée, j'ai jamais vraiment eu affaire au réseau de santé et je connais très peu tout ce qui est spécialisation. Fait que pour les gens comme moi, qu'est-ce que l'orthopédie?
C'est une excellente question. En dehors du milieu de la santé, effectivement, beaucoup de gens mêlent un peu orthopédie, ostéopathie, chiro et seulement bon, qui est quoi dans tout ça? Fait qu'en gros, le chirurgien orthopédique, c'est, comme le terme le dit, tout d'abord un chirurgien qui va adresser les pathologies du système musculo-squelettique. Ça peut aller, évidemment, les pathologies très fréquentes comme l'arthrose qui va toucher davantage les personnes âgées, mais on va aussi aller toucher les reconstructions ligamentaires, par exemple, les ligaments croisés antérieurs, les épaules qui vont disloquer à répétition ou des blessures au niveau de la coiffe des rotateurs. Et aussi un autre gros chapitre qui est tout celui des fractures. Donc, si tu te casses quelque chose qui a besoin d'être opéré, ben c'est entre mes mains que tu vas atterrir. Et on a un côté chirurgien comme ça, mais on a aussi tout le volet médical qui va adresser le traitement conservateur de ces pathologies-là également, que ce soit via des immobilisations, via des injections ou infiltrations, ou encore là, selon la pathologie, simplement des conseils sur l'entraînement, sur les habitudes de vie, sur le sport. Donc, c'est un peu le rôle du chirurgien orthopédique dans le système de santé.
Intéressant. Moi aussi, je n'apprends, tu vois, quand Coach Frank m'a posé la question, j'ai dit, ben, il s'occupe des os, là, les os brisés, là. Puis, mais tu vois, tu vas plus loin, là. Dans tout le système musculo-squelettique, évidemment, quand tu as parlé de ligaments croisés antérieurs, c'est le type de blessure, des fois, qu'on entend aussi. Puis, c'est plus lié. Oui, je comprends que c'est tout sur le système squelettique, là, mais tu vois, c'est pas la première chose qui me venait en tête.
Mais quand on fait référence justement à l'orthopédie sportive, c'est beaucoup ce genre de blessures-là là, que ça va impliquer. Tout ce qui est un peu plus touchant, les blessures ligamentaires des sportifs, là, c'est là-dedans qui est un peu mon dada et mon expertise.
Tu vois, je m'en allais directement là. Plus spécifiquement, au niveau de la course, on sait que les blessures sont rarement traumatiques. C'est pas comme une chute en ski alpin où là, je vais me détruire un genou ou je vais m'exploser une épaule. Mais au niveau de la course, les chutes sont quand même plutôt rares, surtout sur la course sur route. Alors, c'est quoi le type de blessure que tu vois de coureurs, mais qui se rendent à toi? Je sais qu'on a déjà, on avait discuté avant là, en pré-entrevue que ben, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge en première ligne. Quand ça se rend à toi, c'est quoi les types de blessures qu'on voit qui proviennent de des coureurs?
C'est une excellente question. Comme tu le mentionnes, les blessures plus traumatiques de chute vont demeurer rares. On peut faire une petite exception là, avec la course en sentier qui a un petit peu plus de risques, mais encore là, si on relativise ça par rapport au sport comme le ski ou le vélo de montagne, ça demeure plutôt mineur. Le reste, tu le mentionnes bien aussi, la plupart des blessures vont être des blessures un peu d'irritation, d'usure, les fameuses HIIT, tendinites, bursites et autres périostites de ce monde qui vont toucher les coureurs. Donc, ces blessures-là sont souvent adressées en première ligne par les physiothérapeutes, les kinésios, les entraîneurs ou juste en allant lire sur Internet puis dire « bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Demandez à Dr. Google.
Ça marche un bout, ça.
Oui, ça marche
un bout. Dr. Google, j'aime ça.
Mais après ça, quand est-ce que tu vas voir finalement le médecin? C'est généralement quand soit tu as des blessures qui échouent à ces mesures de première ligne-là, donc que tu as essayé certains exercices, certains étirements, certaines médications des fois en vente libre, puis finalement la blessure persiste et ne s'améliore pas. Donc c'est dans ces circonstances-là des fois que tu vas être amené à aller consulter un médecin spécialiste. Puis sinon, un autre sous-type de blessure, je te dirais, qui va nous atterrir un peu plus précocement entre les mains, la catégorie des fractures de stress. Donc, ça rentre encore dans les blessures un peu de surutilisation. Quand on parle de fractures de stress, c'est pas nécessairement parce que la personne est anxieuse et stressée puis que là, ses os se mettent à casser.
Je suis content que tu le précises parce que c'est vraiment pas tout le monde qui sait c'est quoi une fracture de stress.
Tout à fait, tout à fait. Le nom peut être un peu amené à confusion. Mais ça, c'est une fracture qui finalement revient avec des micro-traumatismes répétés. On s'entend qu'à chaque fois qu'on fait un sport, un entraînement, on vient causer certains micro-dommages au niveau de notre structure, au niveau de nos muscles, au niveau de nos os. Et notre corps doit faire la micro-réparation correspondante. Okay? On mentionne souvent les bénéfices de l'entraînement, mais aussi les bénéfices du repos et de la récupération qui sont tout aussi importants. Puis finalement, il peut arriver dans certaines circonstances où il va y avoir un déséquilibre entre le micro-traumatisme et la micro-réparation. Fait que soit que les traumatismes vont être trop importants ou trop élevés ou qu'il va y avoir une augmentation trop rapide de ces traumatismes-là ou que, à l'inverse, les capacités de réparation ne sont pas suffisantes, soit parce que la personne ne fait pas assez de repos, de récupération ou dans certains cas, la personne peut avoir des facteurs de risque aussi qui vont ralentir sa réparation. On pense à un des facteurs de risque classiques là-dessus, c'est le tabagisme, par exemple, qui est très nocif pour la santé osseuse, musculaire et ligamentaire aussi. On connaît tous les risques au niveau pulmonaire et cardiovasculaire, mais il y a aussi des gros impacts au niveau du système musculo-squelettique.
Ça, c'est fou, ça. C'est vrai qu'on n'est pas, au courant de ça. Puis, je sais que j'avais parlé avec un médecin puis il m'avait dit c'est incroyable le tabagisme aussi, là, comme niveau diabète, les plein d'autres maladies que ça peut causer qu'on n'est pas conscient. Là. Puis justement, tu as parlé des blessures, puis c'est quoi l'incidence, tu sais, comme peut-être de façon plus macro, de la course à pied sur les os?
Je suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais je vais essayer d'y répondre d'une façon que tu me diras si tu as autre chose en tête. Mais la course à pied a un effet bénéfique au niveau des os. Entre autres, c'est que ça vient augmenter la densité osseuse. OK? On parlait encore là, ça vient amener des impacts. Et le corps va réagir à ces impacts-là. Il va essayer de renforcer la structure pour qu'elle soit mieux en mesure d'absorber ces impacts-là et de gérer le stress sur l'organisme. Donc, la course à pied, de par la nature à impact du sport, va amener une augmentation de la densité osseuse. Fait qu'entre autres, c'est quelque chose qui peut être protecteur pour l'ostéoporose. Et aussi qui peut amener une augmentation du pic de densité osseuse chez les personnes et réduire le risque fracturaire aussi. Donc, il y a des bénéfices sur la santé osseuse également.
Si je reviens sur juste la question d'avant avec celle-ci, c'est qu'on dit, tu dis la course parce qu'elle fait des petits chocs, tu fais vibrer l'os, augmente la densité osseuse. Mais si on va au-delà d'une certaine charge, c'est là qu'on s'expose à des fractures de stress, des microfractures.
Exactement. Fait que il y a un équilibre qui doit être trouvé et surtout une progression dans l'entraînement et le volume et la quantité de ces impacts-là qui surviennent. Et il doit y avoir en parallèle une récupération adéquate pour permettre au corps de s'adapter et de récupérer. Et on jumelle avec tout ça les autres aspects qui sont l'alimentation, le sommeil et les autres bonnes habitudes de vie vont permettre finalement au corps de pouvoir s'adapter et de pouvoir compenser.
Moi, j'entraîne souvent des gens qui vont débuter en course. Puis, ce que je trouve le plus difficile, je dirais, c'est quand c'est des athlètes qui arrivent d'un autre sport, qui ont une bonne forme cardiovasculaire, mais qui ne sont pas des coureurs. Je pense à une récemment où c'est une très bonne cycliste. Donc, aucun impact dans sa pratique de sport. Par contre, elle a un excellent cardio. Fait que c'est difficile pour elle de comprendre qu'elle ne fait que du petit fractionné, quelques minutes, puis quelques minutes dans deux jours, faire quatre fois une, par exemple. Mais c'est sûr que son constat, c'est « mais je ne suis pas fatigué, je peux en faire plus ». Je comprends. Au niveau cardio, tu n'es pas fatigué. Mais au niveau tout ce qui est justement musculo-squelettique, c'est suffisant pour ton corps parce qu'il faut l'amener à vivre ces petits chocs-là, ces petits micro-traumatismes-là, puis qu'ils se répandent, puis que tu te renforces. Parce que ces personnes-là, souvent, veulent aller au max de leur cardio. Puis c'est là que, boum, ils se blessent parce qu'ils n'ont pas la force, là, mais la tolérance au niveau des jambes ou des os. Puis ça font qu'ils se blessent puis qu'ils régressent ou ils abandonnent souvent la course, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est un excellent point que tu amènes là.
Moi, j'aimerais effleurer le côté, le rôle de l'alimentation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut élaborer là-dessus? Des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises? Ou comme, dans quelle proportion ça vient aider nos micro-réparations?
Je vais te répondre avec mon chapeau de non-spécialiste sur le sujet, OK? Ça va être des principes un peu globaux. Je ne me prétends pas être nutritionniste ou encore là, ne serait-ce que généraliste. Mais je peux dire que oui, l'alimentation a certainement un rôle. Il y a un rôle, un, d'apporter les ingrédients qu'il faut à ton corps pour lui permettre de faire ces réparations-là. Okay? On pense souvent à tout ce qui est protéines, mais il y a besoin également d'une bonne répartition entre les gras, les carbohydrates et les protéines. Donc, les trois éléments ont leur rôle à jouer là, au niveau de la réparation corporelle. Et aussi, un aspect qu'on néglige parfois, c'est certaines diètes, entre autres la diète nord-américaine classique avec les aliments transformés, les aliments sucrés, va être une diète qui va être pro-inflammatoire. Okay? Quand notre corps absorbe des grandes quantités de sucre ou d'éléments transformés, il va relâcher des hormones à l'intérieur du corps pour aller un peu métaboliser et stocker tout ça. Et ces hormones-là vont aussi avoir un effet d'activation au niveau de la cascade inflammatoire corporelle. Donc, ton système inflammatoire va être un peu plus, si on veut, avif ou un peu plus hyperactif et ça peut mener justement à des inflammations persistantes, quand on parlait des HIIT tout à l'heure. Donc, il y a certaines blessures inflammatoires qui peuvent avoir plus de difficultés à guérir et à bien évoluer si on a une diète qui est riche en sucre et en éléments transformés.
Mais oui, c'est intéressant ce que tu amènes sur l'alimentation. Moi, j'ai flashé sur les carbohydrates ou les glucides. Moi, je suis très adepte de ça. Mais je pense qu'il y a moyen d'y aller, par exemple, avec des meilleurs choix. Là. Parce qu'il y a des glucides dans les fruits, il y a des glucides dans certaines céréales, etc. mais c'est pas nécessairement juste des bonbons, des jujubes, etc. Là. Fait qu'il y a quand même un choix dans la qualité de la nourriture aussi qui vient, pas juste songer aux macros, là, protéines, glucides, lipides, là, en effet. Mais je suis un gros adepte des glucides.
Oui, mais encore là, c'est de choisir un peu comme tu parlais des fruits, c'est si tu peux combiner ça avec des fibres ou des sucres à libération plus lente. On a peut-être déjà entendu parler des index glycémiques de certains aliments. Donc, l'idée, c'est que si tu as des sucres qui sont à libération plus lente, ça va diminuer les pics de sécrétion d'hormones au niveau de ton corps, puis ça va permettre une meilleure gestion. Donc, il y a moyen d'aller chercher du sucre et d'avoir du plaisir quand même dans l'alimentation. Mais oui, il y a des choix qui peuvent être plus bénéfiques dans ce qu'on fait.
L'autre volet que tu as amené tantôt, c'est au niveau du repos, sommeil, de balancer tout ça. Peux-tu nous en élaborer un petit peu plus sur c'est quoi l'effet bénéfique du repos, du sommeil pour éviter les blessures par rapport à tout ce qui est musculo-squelettique?
Ben, le sommeil va être un ingrédient essentiel pour permettre la régénération de ton système, que ce soit ton système physique, comme tu dis, les muscles, le corps en général, mais ton cerveau également a besoin de ce sommeil-là. Et va permettre de bien rééquilibrer tes neurotransmetteurs, de te rendre dans un état où tu vas aussi prendre des meilleures décisions par rapport à ta santé quand tu es en forme et réveillé. Donc, tout devient un peu plus facile et c'est certainement un des plus gros bénéfices qu'on sous-estime. Le sommeil, c'est quelque chose qui est souvent, c'est là qu'on va couper quand on manque de temps dans la vie et je dois plaider coupable là-dessus à l'occasion. Mais c'est ça devrait plutôt être un des derniers endroits où on coupe.
Moi, puis Bill, on prend beaucoup le sommeil. Fait que c'est pour ça qu'on t'a relancé. Le repos, pas le sommeil, mais le repos. Tu sais, à tout le monde qu'on coach, on est beaucoup comme le repos est important. T'sais. Des fois, il y en a qui veulent faire du séjour semaine, ils sont fiers. Je suis comme non, c'est pas. Prends du temps pour te reposer. Tu vas progresser sur le long terme versus comme te brûler. Fait.
Tu as nommé l'acuité mentale, je me trompe-tu, ou juste d'être plus sharp au niveau mental, d'être plus présent, ça peut prévenir certaines, je vais dire blessures, là, mais parce que je vais être moins attentif à mon tracé, je vais mettre le pied sur une roche, je vais me fouler parce que je suis moins, mes muscles vont être moins réactifs, mon cerveau va être moins réactif à reprendre mon équilibre, etc. Je pense qu'il y a même un petit volet de ce côté-là aussi.
Tout à fait. Mais ça, c'est toujours le classique. Moi, les gens que je vois en clinique qui se sont fait une fracture, c'est toujours sur la dernière descente de la journée. La petite, oh, j'en fais une dernière. Puis finalement, on est moins concentré, on est un peu plus fatigué, nos muscles réagissent moins bien, notre pied ne se met pas au bon endroit. Puis c'est toujours sur celle-là qu'on finit par se faire mal.
Mes enfants me trouvent plate parce que quand ils veulent faire une dernière chose, non. ça va finir à l'hôpital, non. Ils sont comme, ah, t'es plate, oui, mais je m'en fous.
C'est une bonne prévention,
par exemple. Ouais, bonne prévention. Ouais, je suis strict là-dessus. Là. Je vois l'heure, je vois qu'ils sont fatigués. Là. Non, on arrête ça là.
C'est plus safe.
Plus safe, exactement. Tu sais, il y a beaucoup de croyances, des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai mal aux genoux, je ne peux pas courir » ou, tu sais, là, je dis les genoux, ben, ce qui fait du sens, là. Mais y a-tu des pathologies qui ne sont pas un frein, tu sais, comme un peu des mythes, des croyances qui ne sont pas un frein à la course à pied?
Il y a énormément de pathologies qui ne sont pas des freins à la course à pied. Je vais plutôt virer ta question à l'envers, dans le sens que les pathologies qui sont des freins à la course à pied demeurent la minorité. OK, c'est sûr que si tu as une cheville cassée, tu vas pas aller courir dessus avant que ton médecin t'ait donné la permission de le faire. OK, fait que ça, c'est un peu dans les choses évidentes. Mais pour le reste, je vais rarement recommander à mes patients un arrêt complet de la course à pied ou de ne pas se mettre à la course à pied. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a des bénéfices quand même à la course à pied. On a mentionné tantôt ne serait-ce que la densité osseuse, mais si on pense aussi, là tu parlais des genoux, au niveau de la nutrition du cartilage. Donc le cartilage est ce qui recouvre les os dans les articulations, mais ce cartilage-là a besoin d'avoir un peu de compression et d'impact pour rester en santé également. Donc la course à pied a un aspect qui peut aider à la prévention, entre autres, de l'arthrose. Donc, je vais généralement recommander à mes patients que la course à pied ne soit pas éliminée ou bannie quand ils ont des blessures ou quand ils ont des pathologies qui commencent à s'installer au niveau des articulations. Ceci étant dit, je vais recommander de le faire intelligemment. OK? Qu'est-ce que je veux dire par intelligemment? On a déjà commencé à l'aborder un peu. Je vais leur dire, écoute, il faut que tu ailles de façon progressive. Il faut que tu te laisses le temps d'avoir du repos et de la récupération. Il faut que tu varies un peu aussi la façon dont tu vas imposer du stress à tes tendons, tes articulations. Je vais beaucoup prôner l'entraînement multiple, c'est-à-dire de dire que oui, tu peux courir, mais peut-être pas aller courir à tous les jours. Probablement faire une journée où tu vas aller courir. Le lendemain, tu peux aller privilégier une activité où il y aura peu ou pas d'impact. On parlait tantôt de vélo ou de natation, d'intégrer également de la musculation, des étirements, des échauffements. Donc, je vais beaucoup les encourager à varier les sports et les activités qu'ils vont faire. Puis, ensuite de ça aussi, je vais aller insister sur l'importance d'être à l'écoute de ton corps. OK? C'est correct d'avoir des petits bobos quand on court. On finit par apprendre à reconnaître qu'est-ce qui est une raideur, qu'est-ce qui est un raquage ou qu'est-ce qui est un peu une sensation normale associée à l'exercice. Mais si ton genou y enfle pendant 3 jours parce que tu es allé courir, je pense pas que tu es en train de lui faire du bien. OK? Donc, il faut être à l'écoute de ton corps et il faut répondre un peu à ces signaux-là. Si tu as un inconfort qui dure quelques heures, qui s'estompe le lendemain, puis qui te permet d'être fonctionnel dans ton quotidien, ben, probablement que tu n'es pas en train de faire rien qui est trop dommageable ou trop néfaste pour ta santé musculo-squelettique. Mais si je reviens à l'exemple du genou qui va être enflé pendant 2 ou 3 jours après ta séance de course, tu n'es probablement pas dans la zone bénéfique. Est-ce que tu dois diminuer ton volume? Est-ce que tu dois varier la façon dont tu cours? Est-ce que tu dois privilégier plus d'entraînement croisé? Fait que c'est là que la solution va dépendre un peu de la pathologie ou de la blessure sous-jacente, mais ça reste un peu les mêmes principes là, qui s'appliquent.
Tu as parlé de un genou qui enfle. Je pense que ça, pour les gens, c'est assez évident. Là. J'ai un genou qui enfle pendant 3 jours, ça fait mal, j'arrête. Mais j'ai une question par rapport à... On a parlé de fracture de stress, fracture de fatigue, une douleur osseuse. Comment on fait pour savoir quand est-ce que c'est important ou parce que c'est quand même une douleur qui est ressentie différemment?
C'est pas toujours facile à différencier. Qu'est-ce qui est osseux, qu'est-ce qui est tendineux, qu'est-ce qui est musculaire, c'est pas toujours facile de le différencier, autant pour la personne de la façon dont elle ressent que pour le clinicien qui va examiner le patient. Fait que souvent, chez ces patients-là, ben, on va avoir besoin d'examens complémentaires du style ne serait-ce qu'une radiographie là, pour essayer d'aller voir s'il y a des changements au niveau osseux qui laissent suspecter qu'il y a quelque chose qui se trame de façon sous-jacente.
Je pensais que tu flippais un 25 cents.
Ça arrive, mais... mais toujours est-il qu'il faut s'inquiéter, je te dirais, quand il y a des douleurs qui vont persister pendant plus d'un 48-72 heures après la pratique de l'activité sportive et aussi quand c'est des douleurs qui vont survenir soit au repos ou à la marche. Donc ça, on est rendu dans quelque chose qui est moins un petit bobo de coureur qui va passer, mais que là, on dit, ouais, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus grave pour lequel je devrais aller consulter.
Douleur qui perdure, c'est ça le gros signe, si je comprends bien.
Douleur qui perdure ou douleur qui survient dans tes activités de la vie quotidienne, comme la marche.
Après faire la vaisselle, t'as encore mal, là. C'est pas bon signe.
C'est moins bon signe, effectivement.
Arrête la vaisselle.
Achète-toi la vaisselle. C'est bon.
Oui, c'est ça. C'est bon. Prescrit par mon doc, ça prend la vaisselle. Tu as parlé quand même, moi ça m'a interpellé que tu n'arrêtes pas souvent là, tes gens de courir, à moins vraiment de conditions particulières. Puis je vais te parler de 2 expériences de moi par rapport à ça. Bien, premièrement, je reviens sur mon début en course. J'étais de ceux, j'avais des douleurs méniscales, puis j'étais de ceux qui disaient, ben moi je peux pas courir, j'ai mal au genou, ça marchera pas. Je me le fais rappeler par des amis aujourd'hui qui me semblaient que je pouvais pas courir. Puis aujourd'hui, je me rends compte que non seulement je peux, mais ça me fait du bien. Je n'ai plus mal aux genoux depuis que je cours intelligemment puis que je dose finalement mon entraînement. Puis mon expérience, c'était vraiment avec en physio où j'ai eu une blessure récemment. Et puis en consultant le physio, c'était une, là je ne veux pas me tromper d'un terme, là, mais stagiaire ou en tout près d'être physio. Là. Et donc elle était supervisée par un physio dans la clinique. Donc, c'est elle qui me suivait, puis elle se faisait questionner par le physio. « OK, est-ce qu'on l'arrête de courir? » Puis là, je l'ai vu réfléchir. Le physio avait sa réponse, évidemment. Elle, je l'ai vu réfléchir, puis elle a dit « Non, j'ai bonne réponse. » Moi, j'étais content, je voulais continuer à courir. Mais évidemment, tu sais, je lui avais dit que je n'avais pas de douleur en course, que ça n'empirait pas après, que généralement, c'était dans d'autres situations que j'avais ma douleur, que je ressentais. Fait qu'elle n'avait pas, évidemment, d'éléments pour me faire arrêter de courir. Puis ça me faisait du bien de le faire, pas juste au niveau physique, mais tu sais, globalement, ça m'aidait à passer à travers cette blessure-là parce que je m'empirais pas. Et puis j'ai l'impression, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais j'ai l'impression que les professionnels de la santé, ça a quand même changé dans les dernières années où ce qu'on entendait il y a plusieurs années, c'était « Ah, t'as mal, arrête, on gérera plus tard ». Maintenant, de plus en plus, j'entends « Mais si ça te fait du bien, si ça te fait pas plus mal après qu'avant, continue, vas-y intelligemment, monitore-toi, on fait un suivi ». Mais j'entends beaucoup cette vibe-là de continuer le sport et pas d'arrêter les gens complètement maintenant.
Oui, je peux pas nécessairement te dire si c'est plus récent ou pas comme tendance, mais effectivement, c'est généralement le message qu'on va passer ou qu'on va essayer de transmettre à nos patients. Ceci étant dit, c'est un message que tu vas beaucoup plus entendre de la part des médecins ou des thérapeutes qui sont des sportifs eux-mêmes, qui vont avoir passé par les blessures, par les arrêts de sport et tout ça, et qui vont avoir un peu... qui vont avoir cette expérience-là, qui vont transmettre là, à leurs patients. Donc, je te dirais, si tu as la chance d'avoir un professionnel de la santé qui partage un peu tes mêmes passions et tes mêmes intérêts, souvent, ça va être des discussions beaucoup plus intéressantes sur « OK, bon, comment tu peux ajuster ton volume de course? Comment tu peux ajuster ton entraînement? Qu'est-ce que tu peux faire d'un peu différemment? » Fait que je te dirais d'avoir, moi personnellement, comme médecin, ce background d'athlète ou de sportif ou de coureur-là me permet d'avoir des discussions beaucoup plus éclairées et intéressantes avec mes patients sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on ajuste ça, puis le quotidien de gestion de ces blessures-là.
C'est une merveilleuse transition vers la prochaine question / prochaine section de ce qu'on voulait parler avec toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du triathlon, entre parenthèses, la course à pied aussi, là? Fait qu'on aimerait un peu connaître ton parcours de coureur. On a un peu inversé le format. D'habitude, on demande au début, mais toi, on a vraiment voulu rentrer dans le sujet puis t'amener vers ton parcours de coureur vers la fin. Comment ça a commencé tout ça?
Ça a commencé, j'ai toujours été un actif ou un sportif. Et j'ai toujours été un peu un touche-à-tout côté sport. J'ai aimé faire autant du hockey que du tennis, que du baseball, que du soccer. Donc, j'ai été un peu touche-à-tout de ce côté-là. Et pour moi, la course à pied, donc dans ma jeunesse, dans mon adolescence, était un peu un accessoire que j'utilisais de façon occasionnelle pour garder la forme et au travers des autres sports. Mais c'était plus un peu un à côté qui avait peu de place là, avec tout le reste. Après ça, en vieillissant, j'ai eu une phase un peu plus gym et musculation pour essayer de prendre du coffre un peu. Le hockey était pas mal mon sport de prédilection dans la jeunesse, fait que j'essayais de prendre un peu de coffre. Et la course à pied, à ce moment-là, était un peu le cardio là, qui accompagnait les séances de musculation. Donc encore là, un peu un à côté, un accessoire. Puis finalement, c'est plus tardivement rendu vers l'université que là, t'as un peu moins de temps pour les différents sports. Les études en médecine, bon, ça peut être quand même un peu prenant au travers de tout ça. Donc, la course à pied avait l'avantage d'être quelque chose qui était rapide, qui était accessible, qui ne nécessitait pas d'horaire particulier non plus. Donc, j'ai commencé à courir un peu plus pour le plaisir de courir, là, je te dirais, à l'université, là, donc dans la début vingtaine. Après ça, j'ai focusé plus sur la course à pied initialement. J'ai fait quelques courses, là, tu mentionnais Ottawa, qui, je crois, a été ma première course officielle. Écoute, ça doit être toi qui as les stats la plus à jour que moi, mais je pense que c'est 2009, 2009, ma première course officielle. Puis après ça, ben, je pense que vous avez tous les deux couru à Ottawa, j'ai pu comprendre en écoutant vos autres podcasts. Puis vous savez que c'est connu pour être une course qui a beaucoup d'ambiance, qui a beaucoup d'encouragement, qui donne le goût finalement de continuer à courir puis de vivre ces événements-là. Donc, c'est à partir de là que j'ai eu un peu la piqûre comme ce que certains d'autres ont connu. Puis... j'ai fait après ça toutes les erreurs possibles de coureur. OK, j'ai beau être médecin, j'ai beau être motivé, intéressé et avoir un peu de background supplémentaire sur le sujet, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire là, de surentraînement, de blessures, de mauvaise gestion, de je suis passé par là. J'ai fini une course en ambulance parce que j'avais perdu connaissance au bord de la route.
Okay. À ce point.
Oui, à ce point-là. Tu sais, l'espèce de switch off là, qui dit hey, tu sais, arrête, ça fait mal. Moi, je ne l'ai pas, cette switch-là. Fait que je suis capable d'aller pousser dans la douleur et dans l'inconfort. Et j'y prends un certain plaisir, malheureusement. Ce qui fait que des fois, mon corps et mon système vont faire un shutdown avant que le cerveau ait la sagesse de dire que c'est pas une si bonne idée que ça.
Bien dit.
Puis moi, j'aimerais ça te dire comme ce que j'aime, c'est que je me dis que si tu as un sportif blessé devant toi, tu as l'empathie. Tu sais, parce que j'imagine un orthopédiste qui fait pas de sport comme ça, puis il est comme, mais pourquoi t'as pas juste arrêté, genre?
tout à fait. Ouais, fait que je suis passé par là, donc je les ai faites, les erreurs, et je sais que des fois, il faut qu'on les vive, ces erreurs-là, il faut qu'on les fasse pour grandir et prendre de l'expérience. Donc, de ce côté-là, je les ai faites moi aussi. Puis j'espère que les gens qui sont à l'écoute de votre podcast et de notre discussion aujourd'hui vont peut-être en faire un petit peu moins d'erreurs grâce à notre discussion.
Ils sont tous parfaits. Toujours...
Fait que toujours est-il qu'au travers de ces blessures-là, entre autres, c'est un peu comme ça que j'ai intégré davantage les autres sports, la natation, le cyclisme, et c'est ce qui m'a plus fait la transition vers le triathlon. Puis le triathlon, maintenant, ça doit faire au moins une quinzaine d'années que je le pratique. Puis ça a été vraiment aidant pour moi pour maintenir un équilibre justement entre le volume d'entraînement et la gestion des blessures. Parce que veux pas, si tu fais du triathlon, encore là, au travers des autres sports, tu n'as pas le choix de maintenir un volume qui va être modéré un peu dans tous tes sports et tu vas finir par stresser tes muscles, tes articulations de façon un peu différente à chaque fois que tu fais ton entraînement. Donc, ça permet de rester actif, de bouger au quotidien, mais de varier les stress et les impacts sur ton corps. Donc, c'est un côté là, pour moi qui fait partie de l'équilibre que je cherche à atteindre.
On m'a déjà dit récemment, pour faire un Ironman, il y a trois éléments. Là. Tu peux poursuivre une carrière, tu peux avoir une blonde avec une famille, tu peux faire un Ironman dans ta vie, mais choisis deux des trois, les trois ensemble, ça se peut pas. Moi, ce que j'entends, c'est que non seulement tu as les trois, mais tu as les trois à un très haut niveau en même temps. Comment tu conjugues ça?
C'est un défi quotidien de trouver l'équilibre finalement dans tout ça. Fait que t'as tout à fait raison. J'ai déjà entendu cette belle analogie-là. Il y a juste 24 heures dans une journée au bout de la ligne. Là. Fait que oui, c'est un défi constant là, de trouver du temps à la fois pour le travail, pour la famille et pour l'entraînement. Une des façons avec laquelle je jongle avec ça, c'est que je vais faire beaucoup de combos. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup de transports actifs. Donc, si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ce temps-là, il doit être là. Donc, soit je vais le faire à vélo, soit je vais le faire en courant. Donc, je vais essayer de combiner finalement mon temps de déplacement avec une activité sportive. Je vais également... La pandémie m'a donné l'occasion de faire presque toutes mes réunions maintenant sur mon vélo stationnaire ou sur mon vélo extérieur aussi, quand les conditions le permettent.
Donc, un meeting en vélo dehors?
Oui.
C'est cool.
Maintenant, tout se fait par Zoom, Teams et autres. Puis, je veux pas dans mon travail, c'est un aspect qui prenait quand même plusieurs heures par semaine. Je suis le chef du département de chirurgie chez nous, donc ça vient avec certaines responsabilités administratives, des réunions, des choses comme ça. Puis, la pandémie a permis que ces réunions-là se fassent maintenant à distance. Puis moi, ben, ça m'a permis de trouver des façons de dire, hey, écoute, je peux être sur mon vélo en même temps que je fais ma réunion, j'adapte un peu l'intensité de mon entraînement. Les gens, la première fois, ils trouvent ça un peu bizarre, mais après ça, finalement, une fois que je pense que c'est nous-mêmes qui avons le plus gros frein par rapport à ça, en se disant, qu'est-ce que les autres vont penser, puis c'est-tu correct, puis tout ça. Puis finalement, ben, les gens acceptent, puis il faut que toi, de ton côté, tu adaptes l'intensité de ton entraînement en conséquence, évidemment. Mais ça permet de conjuguer là, certaines tâches et de rajouter des heures finalement à la journée et à la semaine. Fait que c'est un autre aspect qui me permet d'en faire un peu plus. Ensuite de ça, je te dirais, c'est que ça prend aussi beaucoup de discipline et de motivation. Okay? La journée, tu dis, ouais, ça me tenterait moins aujourd'hui. Et après ça, tu réalises que, bon, écoute, le lendemain, tu es de garde, tu pourras pas en faire. Après ça, le surlendemain, tu as une activité avec les enfants, avec la famille. Donc, ça te force à dire, non, regarde, écoute, j'ai une plage horaire là, j'y vais, puis ça a beau être me tenter un petit peu moins. C'est là qu'il faut que ça se passe. Et ces plages horaires-là, on ne se le cachera pas, sont souvent en dehors des heures ouvrables. Fait que c'est pas rare que je vais m'entraîner, que ce soit à 5 heures le matin ou à 10 heures le soir ou aux extrêmes un peu, parce qu'il faut que je m'adapte finalement à la vie de travail puis à la vie de famille. Puis, je te dirais, le dernier point, c'est qu'il faut être très flexible. Autant sur les imprévus du quotidien que sur... qu'est-ce que tu peux faire finalement de façon réaliste dans ton entraînement. Fait que si tu essaies d'avoir un plan qui est trop rigide, que tu suis à la lettre, ça ne marchera pas. Parce qu'une journée, comme je disais, je peux être de garde, opéré jusqu'aux petites heures du matin. Si j'avais un entraînement prévu le lendemain matin à 5 heures, ça n'arrivera pas. Okay? Il faut que je dorme, il faut que je maintienne un équilibre dans toutes les autres facettes de la vie. Fait qu'il faut être flexible puis s'adapter à ce que la vie nous offre finalement.
Mais clairement, tu as trouvé la formule. Je pense que avec les résultats que tu... Non, mais je veux dire, on voit que tu peux être flexible. Tu sais, il y a peut-être des gens qui mettent cette rigidité-là. Je veux dire, avec les résultats, ben, tu réussis à le faire. Fait que même si tu n'avais pas de résultats, juste de le faire, c'est quand même cool. Puis j'imagine aussi qu'il y a un volet de ton travail des urgences. Tu sais, tu dois toujours un peu partir quand même pas la tête libre quand tu pars faire une longue sortie ou peu importe. Je veux dire, tu es toujours un peu sur appel s'il y a un gros, une urgence, quelque chose.
Ben, j'ai du temps off, un peu comme tout le monde. Je suis pas toujours sur appel, mais ce que tu mentionnes, la longue sortie, et ça, c'est le côté le plus difficile dans ma vie là, à placer. Parce que tu sais, si j'arrive, j'ai travaillé 50-60 heures pendant la semaine, j'arrive la fin de semaine avec ma blonde, les trois enfants, puis je dis « Salut, je pars pour 4 à 6 heures, aller faire ma ride de vélo », ça sera pas très populaire là, à la maison. Là, comme...
Donc, oui, ça sent le divorce.
C'est ça. Fait qu'il faut accepter encore là, comme moi, j'accepte maintenant que je suis très peu outillé en termes de longues sorties. Fait que ça vient avec des côtés, tu sais, quand je fais mes courses de plus longue distance, ben oui, j'ai pas nécessairement tout expérimenté comment mon alimentation doit être programmée avant la course, puis qu'est-ce que je vais tolérer comme nombre de grammes de glucides à l'heure, puis des choses comme ça. Donc, je manque d'expérience sur mon long millage, mais ça fait partie des compromis que j'accepte de faire parce que sinon, ben, je vais sacrifier trop au niveau de la famille, puis l'équation n'arrivera plus, là.
Quand en arrivant, tu réserves ton ambulance puis tu pars, c'est tout. Gardez-moi ça une.
Les gars sont habitués. Ah, c'est encore Étienne. On va aller le chercher, il doit être rendu dans le coin du parc.
Tout à fait. Mais je me suis assagi quand même avec le temps. Il faut que je l'admette. Là. Je me suis assagi avec le temps parce que j'ai eu une période encore là où j'avais tendance par justement à essayer de compenser le moins grand volume d'entraînement par plus d'intensité. Je me dis, bon, écoute, je m'entraîne moins, je vais m'entraîner plus fort. Et ça, j'ai pas besoin de faire un dessin que c'est pas l'idéal en termes de balance et d'équilibre. Et c'est là que les blessures peuvent un peu plus survenir. Et c'est là que aussi on pousse des fois la machine un peu trop.
Puis c'est peut-être un mythe ce que je vais dire, mais l'intensité est beaucoup plus longue, a besoin de beaucoup plus de repos. Fait que c'est pour ça que l'entraînement modéré est à privilégier pour pouvoir en faire plus souvent. Versus comme si c'est super intense, tu as peut-être besoin de 2-3 jours de repos avant de pouvoir en refaire. Donc, tu ne peux pas faire 4 entraînements par semaine intense. Les mathématiques ne marchent pas à la fin.
Tu as tout à fait raison. Puis ça, c'est encore dans mes difficultés là, à trouver l'équilibre là-dessus.
Je trouve que c'est un enjeu qui est d'autant plus présent au niveau du triathlon. Moi, je prends juste au niveau des coureurs. Tu entraînes quelqu'un pour un marathon. On va le faire courir 6 jours semaine. On se garde une bonne journée de repos. En général, là, c'est une généralité. Chaque plan est adapté, mais évidemment, là, ça ressemble à peu près à ça pour faire un bon gros volume dans les dernières semaines. Mais au niveau du triathlon, tu as trois lourds sports d'endurance à programmer, puis il y a toujours juste 7 jours dans ta semaine. Comment je comprends que c'est sûr qu'au niveau du vélo, tu n'as pas des impacts, mais tu as quand même une partie du cardio puis de l'endurance. Au niveau de la nage, même chose. C'est sûr que tu as des doubles sports dans ta journée, mais je trouve ça difficile à mathématiquement rentrer ça dans une semaine puis garder un sain repos dans tout ça. Et boy, c'est quand même... Puis surtout quand tu veux performer un peu, là, juste le faire, je trouve que c'est un enjeu. Mais si encore tu es encore un petit peu plus dans la performance, c'est pas facile, là. Surtout avec des gens, on l'a nommé tantôt, famille, travail, etc. Wow!
Non, c'est pas facile. Puis, je prétends pas avoir la recette. J'ai une recette qui fonctionne, mais en même temps, qui doit être constamment adaptée et révisée. J'ai la chance d'avoir je vais lui lever mon chapeau. J'ai une conjointe qui est extraordinaire, qui est très compréhensive, qui est elle aussi une sportive. Donc, on réussit à trouver des façons encore là. Notre date night, ben c'est sa mère qui vient garder à la maison pendant que nous, on s'en va faire du sport ensemble. On fait beaucoup aussi, je parlais de transport actif, mais on le fait beaucoup avec les enfants. Quand on va aux parties de soccer, ben il y en a un qui va en courant, l'autre, il va en auto avec les enfants et vice-versa sur le retour, ou on y va en vélo avec les enfants dans le chariot. Puis, on trouve donc des façons d'intégrer tout ça. Puis c'est le fun de voir que ça se transmet aussi aux enfants qui, même s'ils sont très jeunes déjà, sont déjà des actifs, des sportifs. On espère qu'on va le garder, réussir à leur inculquer ces bonnes habitudes de vie-là. Mais j'ai déjà pas de doute, là, sont déjà des sportifs. Mon plus vieux a déjà quoi, 2 ou 3 triathlons derrière la cravate du haut de ses 4 ou 5 ans, avec le plaisir et fait que c'est le fun de les voir aller.
Il y a 5 ans puis il y a 3 triathlons. Comme spectateur ou genre?
Non, comme participant. Comme participant.
Mais
c'est à sa demande. C'est à force de voir papa, maman, tout ça. Il dit, moi aussi, j'ai envie d'en faire. Puis oui, il y a des formats de triathlon, initiation pour les jeunes. Okay. Ça va être 25 mètres.
Il n'a pas fait 3 Ironman.
Non. Ça va être 25 mètres de nage. C'est quoi 1 km de vélo, puis après ça, 250 mètres de course. Donc, tu sais, c'est des courtes distances adaptées aux enfants. Mais de les voir embrasser ça, puis d'avoir du plaisir là-dedans, c'est le fun de les voir aller. Mais mon but n'est certainement pas de le pousser ou de les brûler là-dedans. On parlait tantôt d'équilibre sportif. Je pense que c'est particulièrement important chez les jeunes. C'est un sujet dont on entend un peu plus parler récemment, mais d'éviter la spécialisation sportive précoce chez les jeunes. C'est un des messages que je voudrais passer aujourd'hui, c'est de justement privilégier de les faire toucher à toutes sortes de sports, à toutes sortes d'activités. Un, ça va diminuer leur risque de blessures associées à ces sports-là. Puis aussi, ensuite de ça, les études montrent que c'est de cette façon-là qu'ils ont plus de chances de demeurer actifs à l'âge adulte, parce qu'ils vont avoir été un peu des touche-à-tout, qu'ils vont avoir plein d'activités qui vont les allumer et qu'ils vont avoir compris que bouger égale plaisir. Donc, c'est quelque chose qui est important de leur transmettre.
Très beau message.
C'est essentiellement ce que Natacha Gagné avait fait comme message dans un épisode précédent où elle était, on le rappelle, était l'instigatrice fondatrice du grand club de course qui fait courir des jeunes enfants. Puis même si elle avait cette structure-là, puis avec une 40aine maintenant de clubs du grand club, si je ne me trompe pas, elle prônait aussi ça, là, de ne pas spécialiser les enfants puis de les faire découvrir plusieurs choses. Fait que c'est cohérent là, avec ce que tu amènes, c'est intéressant. Je recule de quelques minutes, puis je veux réappuyer là-dessus. Moi, je trouve que tout ce que tu as nommé comme adaptation ou solution pour faire du sport à travers un horaire chargé, je trouve ça magnifique, que ce soit du transport actif, tu as nommé des réunions pendant que tu fais du sport, je trouve ça cool, de te joindre avec ta conjointe, de dire, ben OK, fais l'aller à la course, moi, je vais faire le retour, ou vice-versa. C'est pas compliqué, c'est vraiment de prendre le temps de dire, OK, comment je peux ouvrir mon horaire puis créer du temps comme ça pour le sport sans changer finalement tout le reste des autres activités, juste en remodelant puis en créant des occasions de courir. Je trouve ça super. Ça prend juste un petit peu d'ingéniosité, puis il y a moyen de rentrer des entraînements comme ça qui ne viennent pas taxer l'horaire familial ou l'horaire professionnel, puis ça permet de faire du sport.
Puis une autre façon, je vais revenir, je pense que c'est un truc que je t'ai entendu dire déjà dans d'autres épisodes, mais c'est d'être aussi toujours prêt, si on veut. Je sais que tu disais, quand tu t'en vas à quelque part, tu as toujours une ou deux paires de souliers de course dans ton auto ou avec toi. Puis moi, c'est un peu la même chose à l'hôpital. J'ai toujours une paire de souliers de course qui traîne là. Ça arrive des fois que je vais avoir une chirurgie qui va être annulée parce qu'il y a un cas plus urgent qui vient prendre la place. Ben, pendant 7 heures ou 2 là, ben, j'enfile mes souliers, je vais courir, puis je reviens, puis ça n'a presque pas paru, puis j'ai eu le temps de me ressourcer, puis de revenir prêt à reprendre le collier. Donc, c'est quelque chose qui s'intègre aussi, finalement, de saisir les opportunités quand elles se présentent.
Très bon truc.
C'est des fabricants d'écouteurs ou de téléphones. Ça serait bien un téléphone qu'on puisse avoir un meeting en natation.
C'est next level.
Ça c'est next level. Ouais.
Mais en course, tes meetings, j'imagine, tu les prends audio seulement. Là. T'as pas ton sel sur ton guidon avec. Les gens ne voient pas en plongée. Là.
Non, je suis en audio seulement, effectivement. Là, okay. Parce que sinon, des fois, le look un peu en sueur et à moitié habillé, c'est pas toujours approprié.
Au moins, tu dis pas non, c'est moi qui présente. J'ai mon PowerPoint sur mon téléphone avec mes slides.
Comme là, aujourd'hui, là, je peux rassurer les auditeurs, là, je ne suis pas en train de faire du sport en vous parlant. Là. J'aurais bien aimé, mais je me dis, ah, j'ai un peu trop de textes et de conversations à soutenir. Là. Ça sera pas possible sans être trop essoufflé et essoufflant pour les autres qui m'écoutent.
Moi, je voudrais, je l'ai dit tantôt, mais je trouve ça vraiment beau de voir que tu as réussi à tout mettre ça ensemble. J'ai définitivement une carrière moins stressante que la tienne, beaucoup plus de flexibilité. Je ne sauve pas des vies, fait il y a bien des choses que je peux déplacer, refaire plus tard, le faire à 11 heures. C'est un défi de tout accorder un sport et non trois dans ça. Fait que bravo. Juste bravo, tu es une inspiration. J'espère que tu vas être une inspiration pour nos auditeurs. Ça se fait. T'sais. Puis je pense que tout le monde sait que la médecine, c'est un métier qui est quand même demandant, prenant autant en temps que mentalement. Fait que juste props to you.
Ben, merci beaucoup. C'est apprécié, mais en même temps, je vous relance les fleurs aussi, les gars. Oui, vous avez des carrières, vous avez, de ce que je comprends, des familles aussi, vous êtes des sportifs, et en plus, vous faites l'extra mile d'animer ce podcast-là pour justement partager votre passion. Donc, vous aussi, vous réussissez à en faire un peu plus pour transmettre votre passion et aider les autres. Fait que je vous relance les fleurs, les gars.
Merci. Ça me touche. Puis nous aussi, on a trouvé des hacks, comme des fois, on enregistre sur l'heure du dîner. Fait que la plupart des épisodes du haut sont enregistrés dans nos bureaux respectifs sur l'heure du dîner. Fait que nous autres, on a trouvé des espaces, des plages horaires pour tricher tout ça. Moi, dans le fond, ce que je vais te poser comme question, Étienne, y a-tu un sujet, une question qu'on ne t'a pas posé, quelque chose que tu aimerais peut-être mettre l'emphase dessus ou ton message d'équilibre, quelque chose que tu voudrais ajouter qui serait pertinent pour nos auditeurs?
Ben, je pense que le message clé qu'on doit retenir, c'est votre corps est fait pour bouger, il est fait pour être actif. Donc, restez actif, entraînez-le, utilisez-le, bougez avec ce corps-là. Il y a du plaisir à faire du sport et être actif, mais le plus important, c'est d'en faire. Que ce soit la course à pied, que ce soit un autre sport, une autre activité, l'important, c'est de le faire. Fait que je sais qu'on vient rejoindre des coureurs essentiellement avec ce podcast-là, mais le message s'applique à tout le monde, que ce soit votre ami, votre famille. Bougez, soyez actif, restez en santé, puis vous allez vraiment en bénéficier là, autant de votre santé physique que votre santé mentale.
Très beau message. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Puis nous aussi, on est très dans bouger. On utilise la modalité de la course à pied parce que moi et Bill, on connaît ça. Mais je veux dire, si toi, c'est le tennis que tu veux retourner ou peu importe le sport, comme juste nous autres, ce qu'on veut, c'est d'inciter les gens à bouger à la base. C'est juste que comme on connaît la course à pied, bien, on spécialise là-dedans.
Parce que si on me demande de parler de nage, là, oh, vous allez être déçus. Je peux vous parler de la nage du petit chien, puis encore, je ne la nage pas comme il faut.
Moi, je n'ai inventé une nouvelle, c'est la nage de la tortue.
Oh! Sur le dos ou sur le ventre?
Sur le ventre.
Sur le ventre, OK. Ça respire moins bien, je trouve. Moi, j'aime mieux sur le dos.
Ah, OK. Écoute, je vais essayer ça prochaine fois, puis ça, avec mon speedo trop moulant.
Fait que si on fait un petit wrap-up de ce qu'on s'est dit, faire attention aux surcharges au niveau du sport, laisser le temps à votre corps de réparer tous les micro-traumatismes qui se créent, pendant votre course, pendant votre sport. La course étant un sport qui est assez taxant, justement, à cause des chocs. Moi, j'ai entendu que le tabagisme était très dommageable. Je connais des coureurs qui fument, ça me fascine d'ailleurs, comment arriver à courir à un certain niveau tout en fumant. Je me dis, mon Dieu, il me semble que c'est presque t'infliger de courir avec un plat.
Moi, je veux la plugger, celle-là, parce qu'à Ottawa, j'ai vu un marathonnier s'arrêter sur le bord de Salmon Smoke. Celle-là, on a tout passé, puis on était comme, quoi?
Il a pris un break pendant.
Il a pris un break, il est allé sur le gazon, sur le côté. Okay, okay, okay. Il y avait le dossard du marathon. Comme, voyons donc. Là, on parle pas dans 1970, là, on parle de 2000, après la pandémie, là, fait que 2022, quelque chose.
Fait que non seulement ça coupe votre temps parce que vous êtes obligé d'arrêter de fumer pendant un marathon, mais en plus, ça a une incidence très dommageable au niveau de la santé osseuse. L'alimentation aussi, faire attention aux aliments qui sont très transformés ou avec un indice glucidique très élevé, avec des faibles propriétés, moins de fibres, etc., pour que ça va avoir une tendance plus inflammatoire puis que ça vient miner votre récupération. Le repos. Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle ici à Coureur.io. Repos, très important, que ce soit au niveau des journées de pause ou du sommeil, de la qualité du sommeil aussi. Quand vous avez une douleur, on commence à s'inquiéter ou on pense à consulter si la douleur persiste 48 à 72 heures après la course, après l'activité, ou s'il y a une douleur dans une activité régulière de la vie, monter, descendre les marches, prendre une marche à l'extérieur. Ça reste une généralité. Si vous avez des inquiétudes, évidemment, on vous invite à consulter dès que votre inquiétude est assez importante pour vous. Chacun votre tolérance à ça. Mais en général, là, en bas de 48-72 heures, on peut se dire que si la douleur se résorbe et qu'elle ne revient pas à chaque pratique, ben c'est peut-être en voie de se guérir. On a dit d'être flexible, indulgent, d'être ingénieux aussi pour intégrer votre sport à travers votre horaire de la vie. Il y a des petits trucs qui sont faciles qui vont vous permettre de faire votre sport. Même si vous pensez que vous n'avez pas de temps, il y a moyen d'en créer en combinant certaines choses, comme prendre un meeting en roulant sur le vélo. Et finalement, garder surtout un bon équilibre, santé physique, santé mentale, balancer tout ça pour que ce soit léger, plaisant et bénéfique pour votre santé. Étienne, j'oublie-tu quelque chose? Ça résume bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
Je pense que c'est un excellent résumé. Je te félicite pour tes capacités de synthèse. Puis je suis content de voir que tu as écouté nos discussions.
Étienne, as-tu quelque chose à nous plugger aujourd'hui?
À vrai dire, je voudrais profiter de cet épisode-là pour faire un shout-out à un très bon chum à moi qui est décédé cette semaine. Puis que je voudrais juste dire profitez de la vie, ayez du plaisir, bougez, puis vivez chaque jour à fond.
Mes condoléances, puis c'est un très beau message. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs?
Bonne course!
Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.